Bonjour, ici Marc Levasseur. Je vous souhaite la bienvenue à Django et compagnie, l'émission consacrée au jazz manouche et aux musiques apparentées. On parle de jazz, musette, musique des Balkans, tzigane flamenco, klezmer et musique du Moyen-Orient. Des variations musicales teintées d'influences locales telles qu'on peut les entendre au Québec, à Montréal et un peu partout dans le monde. Je vous rappelle que nous sommes diffusés deux fois la semaine, les mercredis et les vendredis en soirée sur les ondes de CIBL 101,5. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram par une page qui se nomme Montréal et Jazz Manouche sur laquelle on met les informations liées aux différents épisodes. Cette semaine, on est encore chanceux parce qu'on poursuit l'entretien qu'on a commencé la semaine dernière avec le très prolifique Stéphane Rembel. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
On a aussi Aurore Voilquet. C'est pas moins prolifique, là, c'est vraiment quelque chose. Allez, bonjour Aurore.
Bonjour.
Et l'arrière-petit-fils de Django Reinhardt, je ne sais pas s'il aime ça qu'on le présente comme ça, mais il s'appelle Simba Baumgartner. Bonjour Simba.
Bonjour.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les écouter une première fois avec une pièce de leur choix que Stéphane va annoncer de go.
Eh bien, on va jouer un morceau de Django Reinhardt qui s'appelle « Douce ambiance ».
Douce ambiance, et puis on vous revient tout de suite après. Thank you. l'ambiance est vraiment douce en studio. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup.
Merci, Marc.
On va aller avec... on va essayer de connaître un peu mieux les musiciens, surtout Stéphane en particulier, pour commencer. Stéphane, on dit de lui que c'est quite simply, je vais le dire en anglais, puis je vais le traduire, « one of the best guitarists in the world ». Donc, un des meilleurs guitaristes au monde. Mais Stéphane, il a tout un bagage et vous êtes né à Paris, vous avez habité Fontainebleau. Racontez-nous un peu rapidement, là. Faites-nous un peu le portrait de qui vous êtes. Comment vous êtes arrivé au jazz manouche?
En fait, j'ai grandi à Fontainebleau, donc dans la région de Samoa, juste à côté de Django. Ouais. En fait, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Chartrette.
Okay.
Fontainebleau, c'est une forêt. Et au milieu, il y a la ville de Fontainebleau,
ouais,
qui est un peu le centre-ville, avec plein de petits villages autour qui sont tout agglutinés. Donc il y a Chartrette, Bois-le-Roi, Samoa, Samoro, Hérissy, il y a tous ces petits villages comme ça. Et c'est un peu comme la banlieue de la petite ville de Fontainebleau, mais dans les bois, quoi, au bord de la Seine et tout, c'est magnifique. Et donc j'ai grandi dans un petit village comme ça, et depuis tout petit, on a entendu Django, etc. Puis quand j'ai eu 18, 19 ans, je ne me rappelle plus bien, environ, je suis allé au festival Django de Samoa-sur-Seine. Et puis là, j'ai vu pour la première fois vraiment... les Manouches jouaient en live, là, et ça m'a fait un choc. Je me rappellerai toujours, c'était le groupe Lat Chaudrome qui avait joué.
Ah ouais, ouais, ouais.
Ils venaient de sortir leur premier album, ils sortaient leur premier album, et c'était vraiment magique. Je me rappelle voir Chocolo jouer, et aussi je crois qu'il y avait Angelo Debar qui était là-haut, mais qui jammait un petit peu à l'arrière. C'était encore petit et champêtre à l'époque, le festival. Maintenant, ça a pris une autre tournure, une autre taille. Mais voilà, donc ça m'est venu comme ça, et là j'ai su qu'il fallait que je travaille Django. J'étais dans une quête, en fait.
Ouais.
J'avais commencé avec le piano classique quand j'avais 4 ans, et ma prof de piano, Mademoiselle Lecomte, qui était une sommité dans la région, hein, c'était l'accompagnatrice des chanteurs et des danseurs au Conservatoire de Paris. Donc c'était les accompagnateurs au conservatoire, c'est les gens qui lisent tout à vue en tempo.
Ouais, ouais,
donc
ouais.
Elle pouvait lire, c'est le cirque Pinder.
Ouais, ouais,
ils
ouais,
peuvent
ouais.
lire tout et n'importe quoi. Alors elle pouvait par exemple jouer un scherzo de Chopin et le transposer une carte au-dessus, comme ça, en tempo. Enfin, elle pouvait lire tout et n'importe quoi, c'était hallucinant. Et c'était une copine de Ravel, c'était une copine de Stravinsky, et puis elle était en fait dans le groupe de Nadia Boulanger.
Okay,
elle faisait partie du conservatoire américain et tout ça, donc c'était du très haut. Donc j'ai commencé comme ça mon apprentissage, en ayant quand même reçu de l'information de cette personne, c'était grandiose. Et puis quand j'ai eu 16 ans, j'ai été intéressé par la guitare, parce que j'étais aussi un grand fan de Pink Floyd, qui est toujours mon
David
groupe
Gilmour,
préféré.
Vous étiez fan
de Pink
Gilmour.
Floyd surtout, de tout, du son, des claviers, Gilmour entre autres, mais vraiment de tout le truc, Roger Waters, ses compositions, j'adore. Et du coup, je voulais jouer de la guitare, donc je me suis mis à la guitare. Comme tu le disais, pour commencer à jouer au moins comme Gilmour, c'était vraiment ce qui m'attirait. Puis après, j'ai commencé à vouloir devenir musicien. Donc je me suis dit, il faut que j'étudie tout. Le classique, le jazz. Mais le jazz, c'était un grand mystère pour moi. Et en fait, le meilleur moyen d'y rentrer, comme j'étais guitariste, c'était par Django. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser en Django, en fait, en voulant élargir mon horizon. Et puis, comme Obélix, je suis tombé dans dans la marmite de potions
totalement.
Magiques. Et puis, je ne suis jamais revenu, en fait. Et en fait, j'ai découvert que Django, c'est plus qu'un style. On en fait un style, mais c'est vraiment le grand guitariste, quoi. C'est lui qui est à la fondation de tout. Je dis toujours que Django est à la guitare ce que Bach est au clavier.
Ouais, ouais.
Quel que soit le style que tu joues, quel que soit ce que tu fais, si tu travailles Django, tu vas être meilleur, c'est obligé.
Mais Bach, c'est de la musique mathématique là, par excellence, alors que Django, c'est beaucoup plus...
Non.
Des tripes un peu plus...
Non. Il n'y a rien qui est plus mathématique ou rien mathématique. L'harmonie, c'est l'harmonie. Bach, c'est pas plus mathématique ou moins mathématique que Debussy. L'harmonie, c'est... Il n'y a pas de mathématique dans la musique, ça, c'est des histoires... C'est l'histoire à dormir debout, ça. Non, oui, mais il y a bien sûr, il y a des règles de physique à cause du son. Hein. Il y a les fréquences, il y a 12 notes. Bon, ces 12 notes, comment elles interagissent entre elles. Il y a des architectures de ce qu'on appelle la tonalité, des accords qui vont entre eux. Ça, c'est une réalité, ça s'appelle l'harmonie. Mais l'harmonie, elle peut prendre des formes toutes les formes possibles. Et en fait, ceux qui maîtrisent l'harmonie, comme Bach ou comme Debussy ou comme Django, ben, ils sont capables de la restituer sur l'instrument et de nous la montrer.
Hein. Ouais, ouais,
ouais. C'est vrai que Bach, quand il joue ses trucs de piano, il reste très très proche de l'harmonie. C'est platonicien son truc. Hein. On est dans le timé là. Donc on est presque dans l'Antiquité en fait. Hein, cet esprit-là comme ça de la perfection, etc. Donc lui, il aime matérialiser ça. Je me demande à quel point aussi ces pièces étaient faites comme des exercices en fait pour les élèves. Parce qu'ensuite, il y a ses messes, il y a d'autres choses, il y a les cantates. Les cantates, il y en a je ne sais plus combien, il y a 300, quelque chose comme ça. C'est complètement dingue. Alors là, par contre, les cantates et tout, ça ne sonne pas comme un truc un peu mécanique où on sent bien l'harmonie et
non,
tout.
C'est vrai.
On trouve plutôt ça dans les livres de clavier bien tempéré, les choses comme ça. Hein.
Oui, mais je disais, la cadence de production de Bach aussi est quand même époustouflante.
Oui, c'est effrayant. C'est effrayant.
Oui. On va revenir à vous, Stéphane. On va passer à Aurore, parce qu'elle aussi vient du monde classique. Je trouve ça fascinant que les musiciens, certains, on dirait quelques musiciens, arrivent du monde classique, découvrent le jazz manouche. C'est votre cas aussi, Aurore Voilqué.
Oui, j'ai eu une formation classique. J'ai commencé très tôt le violon, j'avais 4 ans, hein, 3-4 ans. J'ai pas trop choisi cet instrument. C'est ma maman qui m'a choisi ça pour moi. Elle adorait la musique. Et j'ai commencé à apprendre avec la méthode Suzuki, qui est une méthode japonaise basée sur l'apprentissage de l'oreille. En fait, on apprend d'abord à entendre avant de lire, et les notes.
Ah, mais c'est bien ça.
Ah, c'est super, sauf que j'ai eu des lacunes en lecture après quand même. J'ai toujours un peu galéré, mais j'ai su. Hein, j'ai fait des plans classiques dans des orchestres, des petits cachetons quand j'habitais Paris au début. Donc je sais lire, mais très mal. Et moins en moins bien, puisque je ne pratique plus du tout la lecture. Maintenant, j'apprends tout à l'oreille, comme Simba. J'écoute les mélodies que je dois apprendre en boucle, et je les écoute, et c'est comme ça que je vais les apprendre. Et du coup, ça a quand même eu cette qualité de me faire développer l'oreille, et c'est pour ça que j'ai eu cette facilité à improviser. Quand j'ai découvert Django et Grappelli environ à mes 16 ans, un truc comme ça, j'ai fait un stage de jazz à Barcelonnette. Ça a été vraiment le déclic, en disant que... Il y avait André Ceccarelli, Dietrich Jurater et Toots Thielemans qui étaient les profs. Ils faisaient des concerts au festival et qui étaient jumelés avec un stage. Et ils nous faisaient des masterclass. Comme quoi, Stéphane, ce que tu fais avec Django à Gogo, c'est quand même hyper important de permettre justement à ce que les artistes connus, entre guillemets leaders, rencontrent les élèves et puissent avoir un contact direct. Moi, ça a été un déclic fabuleux. Puis de vivre cette ambiance-là pendant 15 jours, un peu comme une colo, on dort sur place, on bouffe, hein, et puis il y a des fanfares, il y a plein de trucs qu'ils ont organisés, ça m'a tout de suite dit, je veux vraiment faire cette musique-là, moi c'est ce que j'aime, et j'aimais aussi faire des bœufs sur la plage avec mes copains, parce qu'on habitait au Maroc avec mes parents, entre autres pays, et on faisait beaucoup de... Mais par contre, ils voulaient que je joue dans l'orchestre symphonique du Maroc. Il était hors de question que je refasse du classique. Moi, je voulais jouer...
Premier violon,
je voulais Hôtel Californien.
Premier violon, non ?
Non, non, certainement pas. J'avais pas le niveau. Non, 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 non. J'aurais pu être dans les premiers ou dans les seconds, mais j'avais pas du tout envie de faire ça. J'ai rejeté l'instrument à mon adolescence, et la seule chose que j'avais envie de faire, c'était faire des bœufs sur Hôtel California ou des morceaux de Stand By Me ou j'en sais rien. Enfin, autour d'un feu de camp, quoi.
Là, je vais poser une question, puis là, Stéphane va me regarder avec ses gros yeux, parce que est-ce que... Lorsqu'on lit la musique, est-ce qu'on s'empêche de faire de la musique? En d'autres termes, quelqu'un qui lit la musique joue-t-il différemment de quelqu'un qui joue carrément avec ses tripes, là, avec l'oreille?
Non,
en fait?
C'est pas une question de tripes. C'est juste que la lecture de la musique, ça permet de faire passer plein d'émotions. Il y a des nuances, il y a des façons de jouer, des interprétations. Chaque musicien est différent, qu'il lise ou qu'il ne lise pas. Mais le fait de lire, en effet, va empêcher probablement le musicien d'improviser. En fait, il se bloque souvent en fait en se disant que j'arrive pas à jouer sans partition, alors qu'ils connaissent l'instrument, mais sur le bout des doigts, ils sont super forts et ils se bloquent dans dès que tu leur enlèves la partition, ça dit. C'est le contraire. Tu mets une partition,
tu bloques. Stéphane, t'en penses quoi?
Je pense qu'on répond à notre nature. Il y a des gens qui vont se trouver très confortables à lire de la musique, et pour eux c'est comme ma prof de piano, Mademoiselle Lecomte, qui était une accompagnatrice, donc elle faisait que ça, lire la musique. Elle accompagnait Stravinsky et tout ça, donc c'était quand même du très lourd, et elle joue comme comme nous, quoi. À part que, bon, c'est vrai qu'elle improvisait pas, puis elle retenait rien par cœur, c'était autre chose. Mais elle répondait à sa nature. Moi, je suis incapable de faire ça. J'admire les gens qui font ça, je peux pas le faire. Mais elle répond à sa nature. Ouais. Hier, par exemple, on est allé voir un groupe de free jazz au Saint-Angèle, à Québec, là.
Ouais, ouais.
C'était absolument génial. C'est génial. Incroyable. Je sais pas comment ils font. C'était un peu comme les univers de Paul Mossian et tout ça. C'était incroyable. Mais eux, ils répondent à leur nature. Moi, je sais pas comment ils font. Mais c'était génial. Donc, en fait, je pense que chacun répond un petit peu, va où il doit aller, quoi, avec sa nature profonde.
Merci. On va commencer parce qu'il y a un sujet qu'on va absolument aborder, là, puis on va l'aborder avec une pièce que vous avez composée, Stéphane, pour un film. J'en dis pas plus long, je vais vous écouter faire la pièce, puis au retour, on en discute.
OK.
Merci beaucoup. Bistro Fada, pièce que Stéphane a composée pour un film de Woody Allen, n'est-ce pas?
Midnight in Paris.
Voilà. C'est comme
ou
ça.
Minuit à Paris, traduit en français.
Puis c'est comme ça que vous êtes connu. Enfin, pas que comme ça, mais je veux dire, ça vous a propulsé énormément. Comment vous êtes arrivé là, en fait?
Ben, en fait, j'avais travaillé avec Woody Allen déjà sur Vicky Cristina Barcelona.
Ah oui, OK.
J'avais déjà écrit un morceau. Et puis un jour, ben, ils m'ont appelé comme ça le matin en me disant on aurait besoin d'une valse qui représenterait qui pourrait capturer l'âme de Paris, représenter un petit peu le romantisme de Paris, etc. Ils m'ont dit, on a un film sur Paris, on ne peut pas te donner le scénario, mais ça va être sur Paris. Est-ce que tu peux composer quelque chose comme ça? Donc, j'ai essayé d'imaginer les trucs, puis je l'ai composé.
Écoutez, on l'écoute, puis on se voit sur le bord de la scène, là, vraiment.
Parfait. Hein? Donc, ça marche.
Vraiment. Près de l'île de la Cité. Pas loin. C'est génial. Bon, puis donc, ça vous a propulsé beaucoup. Vous avez fait deux films avec Woody Allen.
Trois
films.
En fait, quatre, mais il y en a un, j'étais dans une scène et la scène a été coupée.
Vous voulez dire vous jouez?
Oui.
Ou... Okay.
J'étais dans une scène, je jouais de la guitare, puis j'avais un dialogue, en fait, avec Colin Firth et Emma Stone.
OK.
C'était pour Magic in the Moonlight. Et puis à la fin, bah, comme il fait d'habitude, il coupe la moitié de ses scènes.
Bah oui.
Il a 3 heures de film, il fait des films d'une heure vingt, une heure et demie, donc... celle-là est partie à la poubelle. Je ne suis pas certain qu'elle ne soit pas partie à la poubelle à cause de moi.
Ça arrive souvent en cinéma, c'est fréquent. Là, fréquent.
Ouais, c'est fréquent, oui. Mais sinon, j'ai fait aussi toute la musique de Rifkin Festival, qui est son dernier film là, qui est sorti.
Ouais, ouais.
Hein. 2020.
On va passer rapidement à Simba, parce que Simba, vous vouliez nous parler de votre tournée, puis après ça, on va revenir avec Stéphane pour conclure.
Alors du coup, la tournée avec Aurore et Stéphane, c'était génial, quoi. J'ai adoré. C'était la première fois, en fait, que je partais comme ça en tournée trois semaines de chez moi. D'ailleurs, ça fait un peu bizarre comment on se dit on va partir en tournée, mais après c'est génial comment on se retrouve avec les amis musiciens et tout, avec Stéphane
en bagnole, en plus en voiture,
c'est ça, dans le van, et puis avec Aurore aussi on attrape des barres de rire des fois, on écoute du Pink Floyd, des trucs comme ça.
Ah, c'est génial.
Stéphane aussi, des trucs à Aurore aussi, c'est génial, quoi.
Puis les distances en Amérique sont beaucoup plus grandes qu'en Europe, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, en fait c'est très impressionnant aux États-Unis, en fait tout est gros, tout est grand, même les voitures, les buildings,
même les personnes.
Oui, c'est ça.
Ben, merci beaucoup. Alors, on va encore manquer de temps. Stéphane, les projets futurs.
Les projets futurs, ma prochaine série d'albums, ce sera en février. On sort un album, enfin,
un triptyque.
C'est pas un triple album, c'est trois albums. On sort vraiment trois vinyles. Ce sera en début février et ce sera au Joe's Pub à New York avec Jean-Michel Pilk.
Ouais.
On a un sextet là et ça déboîte. C'est vraiment
monstrueux. On va surveiller ça très près, puis même on pourra en faire jouer des extraits ici. Aurore, vos projets?
Alors là, normalement, cet été, j'ai fait une résidence de 5 jours avec le trio du Serbe Dejan Krismanovic. Oui. On a donc travaillé les morceaux qui sont uniquement ses compos à lui. J'aime beaucoup parce que c'est du jazz manouche, mais matinée, teintée de musique serbe, quoi. Il y a des couleurs balkaniques, c'est vachement sympa.
Et du coup, on entend beaucoup de diminués là-dedans.
Oui, c'est une musique... Enfin, j'adore, quoi. Et du coup, on a enregistré le concert de sortie de résidence qui était au sein du festival de jazz Au Gré du Jazz, la Petite Pierre en Alsace, dans les Vosges du Nord. Et normalement, un disque devrait sortir. Et j'ai aussi un autre projet d'album qui n'est pas encore... J'ai tout le répertoire, mais normalement, je dois l'enregistrer là, dans ces mois qui arrivent, j'espère. Et avec Label West, voilà.
Merci d'être passé nous voir. Simba.
Projet d'album, c'est ça?
Oui.
En fait, j'ai enregistré au mois d'août avec un des amis, là, Adrien Marco, qui va venir à Django à Gogo aussi. Et un ami contrebassiste s'appelle Hervé Pouliguin. Et puis mon violoniste aussi, qui s'appelle Raphaël Tristan, qui a habité au Canada aussi, au Québec. Et on a enregistré à peu près 10 morceaux. Sort du Django, il n'y a pas eu tout de compo. Et là, on va faire quelques concerts à Dubaï, et puis on a des autres tournées de prévues qui n'est pas encore confirmée. On attend des réponses.
Hey, merci beaucoup d'être passé nous voir. On va surveiller ça de près. Stéphane, mot de la fin et dernière pièce.
Mot de la fin, quand même. Je vais reparler 2 secondes de Django à Gogo, puisqu'on est là pour ça. Donc, là, on va finir. C'est le dernier show de Django à Gogo Canada 2023, la première édition, ce qu'on va revenir, en fait.
Ah, ben nous sommes heureux. Vous allez revenir l'an prochain?
Ah oui, on a déjà les dates.
Ah oui?
Ah oui.
Ben, vous pouvez les annoncer.
Ce sera fin septembre, ce sera entre mi-septembre et mi-octobre, on a déjà la fourchette. Et puis bien sûr, le Django à Gogo New York City qui sera en mai, avec le mythique trio, le Gypsy Guitar Trio de Angelo Debar, Serge Camps et Frank Anastasio, avec Andrea Marco et Hugo Guesbar, Aurore sera là, enfin il y aura Jean-Michel Pilk, enfin ça va être absolument génial. Ça, ce sera la première semaine de mai. Avec le camp de guitare et le camp de violon à New York, oui.
Puis à New York, vous savez, en Amérique, en termes nord-américains, c'est un jet de pierre d'ici, hein?
Oh, c'est rien du tout.
Ben voilà.
Et si demain soir?
On part à 8h, à 14h, on est à Manhattan. Hein.
Voilà, on est au Birdland.
C'est ça.
Alors, on va vous écouter qu'une dernière pièce pour sortir?
Eh ben, on va faire le traditionnel, hein. On va faire Les Yeux Noirs.
Ah, génial. Tu vas chanter, Aurore?
Demain, Stéphane. Demain,
ça. Je peux.
Demain, ça.
Ah ben oui, demain, Astra.
Oui.
Non, mais
on en traite de ça déjà.
Cool.
Oggigiorno, oggi strasnie, oggi scusnie, i prekrasnie, как люблю я вас. Как боюсь я вас, знать я без вас, знать не добрый час.
malheureusement tout pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On vous rappelle que c'était Stéphane Rembel, les invités, Aurore Voilqué, Simba Baumgartner, à la régie Olivier Hébert et Gilles Lamarche. Réalisation, animation et thème d'ouverture, Marc Levasseur. Merci d'avoir été là, puis revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Django et compagnie. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Thank you.